Bonjour Jacques Munier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées. Dans la presse, Jacques, les hommages se multiplient après l'incendie de Notre-Dame de Paris. Historien, géographe, écrivain, vous nous proposez ce matin des morceaux choisis.
Eh oui, je vais commencer par une citation. Nous commençons par construire des édifices. Ce sont eux qui nous construisent ensuite. C'est Churchill qui disait ça. Le philosophe Michael Labbé évoque dans Libération l'émotion collective suscitée par l'incendie de la cathédrale, incarnation quintessentielle de cet art de faire chanter le point d'appui dont parlait Auguste Perret. Notre-Dame, plus que tout autre monument, symbolise les puissances d'une architecture qui donne sens et présence à la signification non mesurable d'une communauté. C'est à travers les scènes de stupeur et de larmes de la foule sidérée par le gigantesque brasier, la signification qu'il attribue à l'événement, la forme et la possibilité même d'être un « nous » dépendent essentiellement des lieux que nous habitons. Station obligée pour les visiteurs d'un jour, symbole spirituel éternel pour d'autres, simple visage amical et familier pour ceux qui croisent Notre-Dame lors de leur déplacement quotidien. Par la grâce de cet édifice, nous sommes l'espace d'un instant retrouvé et redécouvert, comme un « nous » au moment même où nous sommes plus que jamais désunis et où nous cherchons parfois désespérément où et comment retisser notre être ensemble. Et sous le visage familier, l'image vraie de notre histoire collective se profile aussi d'autres horizons, comme le rappelle le géographe Gilles Fumet, car il a fallu la pile romaine, la voûte persane, l'arc arabe, l'émail sassanide, la peinture copte, la miniature byzantine, les traditions d'Euclide et d'Aristote, la science de Pline, la Bible venue de Bethléem et du Sinaï, la théologie des pères du désert. Nous étions venus de partout, croyants et incroyants, souligne François Sureau dans La Croix. Derrière nous se formait l'immense cortège des ombres invisibles que la cathédrale avait protégées. 20 siècles de peuples et 20 siècles de rois revivaient dans la lueur des flammes, dans l'étreinte de ces deux jeunes gens qui n'avaient pas 20 ans et dont je n'oublierai jamais le visage ravagé par les larmes. L'écrivain voit affluer les souvenirs de passants considérables, l'Aragon de la nuit de mai, Claudel près du pilier nord faisant la découverte bouleversante de l'innocence de Dieu. Et au chevet de la jeune femme de pierre et vivante, pourtant, Notre-Dame, appelée d'un Orient fécond pour accomplir notre destinée véritable, il lance cette invocation, puissions-nous retrouver devant les ruines à demi froides, d'où l'esprit fait encore entendre ce souffle qui ressemble à celui d'un vent léger, l'amour d'un pays où l'homme est un ami. Pour Régis Debray, dans Le Figaro, difficile de ne pas attacher une portée symbolique à la catastrophe. Selon lui, d'être situé au cœur de la capitale donne à la basilique métropolitaine la résonance d'un bourdon d'orgue étrangement patriotique. Et du coup, c'est une certaine substance populaire et nationale qui est atteinte à travers un point nodal de la communauté civique, un facteur de concorde et non de discorde, le point zéro des routes de France où ont pu converger deux filiations souvent brouillées, la religieuse et la politique. Même si nous avons débouté l'alliance entre les églises et l'État, le plus laïque d'entre nous ne peut récuser cette continuité millénaire. C'est à Notre-Dame que fut célébrée sous la Révolution la prise de la Bastille et ensuite la déesse Raison. Il y fut chanté le Te Deum pour Charles VII et pour Charles de Gaulle et célébré les funérailles de Turenne comme du général Leclerc. On y bénissait les étendards, on y suspendait nos drapeaux. Que reste-t-il dans les ruines encore fumantes de sa charpente et ses flèches, ses secrets et ses rites? Notre civilisation, réduite à passer de l'ère de la commémoration à celle de l'archéologie et ce qui irriguait nous laissant à sec. Mais dans le regard distancié du britannique Graham Robb, si Notre-Dame est bien un chef-d'œuvre de l'art médiéval, c'est aussi un grand monument romantique, tant l'édifice actuel est le fruit de l'imagination de Viollet-le-Duc, assisté de Victor Hugo et des névroses de son temps. En particulier, les gargouilles et chimères destinées au départ à l'évacuation des eaux de pluie érodées au fil du temps par leurs fonctions. Graham Robb, écrivain amoureux de notre pays, rendait compte de l'ouvrage de Michael Camille, les gargouilles de Notre-Dame, dans le mensuel Books, qui a eu l'heureuse idée de remettre son article à la une. Au moment où l'on commence à parler de reconstruction, à l'identique ou non, il faut se souvenir que Viollet-le-Duc s'est en partie inspiré du roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Les sculptures perchées sur les tours et les galeries n'étaient pas le fruit d'une simple restauration, mais le dernier avatar en date de la conception hugolienne du style gothique.